Bonjour Julien.
Hello.
Comment ça va?
En pleine forme, même si aujourd'hui
Un
ça
peu
a été une
fatigué.
journée bien active.
Julien, tu es instructeur d'apnée à Bora Bora en ce moment.
Exactement.
Et
À Bora Bora, ça fait rêver, hein?
ça fait trop rêver.
La perle du Pacifique.
Et tu viens de Saint-Malo à la base?
Exactement, ouais. Je suis né à Saint-Malo le 14 janvier 89, donc là j'ai 34 ans. Je vais sur mes 35 en janvier 2024. Et ouais, je suis un breton, expatrié comme beaucoup d'autres, la diaspora bretonne qui
Mais
colonise le monde.
il reste à la mer en général, non?
Ouais, toujours ouais. Proche de la mer.
Donc, parle-nous un peu de ce que tu faisais avant, comment tu es arrivé à Bora. Tu commences où tu veux.
Ok. Alors, avant mon métier, c'était éco-aventurier. Alors, éco-aventurier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écologie, c'était ma conviction. À la fin de mon école de commerce, mon objectif, c'était de mettre un stop, en tout cas un coup de frein, au suicide planétaire, au suicide de l'humanité. Aujourd'hui, on fonce droit dans le mur, à notre propre fin. On est dans la sixième extinction d'espèces, les océans croulent sur les déchets plastiques, l'air, l'eau, les polluants s'accumulent. Bref, tous les indicateurs sont en rouge. Et quand Nicolas Hulot, pendant la COP21 à Paris, avait dit aux jeunes « Osez !» avec le manifeste « Osons », j'ai dit « Ok, je réponds présent à l'appel ». Et j'ai refusé une offre de CDI en agence événementielle, parce que je venais de valider un Master 2 International Events Management. Et je me suis dit non, je vais me battre pour mes valeurs, pour mes convictions, qui est la protection du vivant sous toutes ses formes. Et en même temps, je vais réaliser mon rêve. Donc mon rêve, moi, c'est d'être un explorateur, un aventurier. Je dis souvent que j'ai peur de la peur. Moi, je déteste avoir peur. Quand j'ai peur, je fonce dedans, je défonce mes propres limites et on y va. Donc, éco-aventurier, un aventurier au service de l'environnement. Donc, la question, c'était comment faire? Et moi, je voulais passer par l'éducation, prévenir les jeunes, prévenir la jeune génération, les sensibiliser et les éduquer pour qu'ils deviennent des acteurs du changement. Nelson Mandela, d'ailleurs, disait que l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'était l'éducation. Et j'en suis convaincu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut des actions concrètes, directes, et l'éducation, ça prend du temps. Donc, je m'étais quand même décidé à me lancer à travers l'éducation, mais bon, à travers des actions concrètes. Donc, les actions concrètes, c'était de créer des écoles écologiques sur la gestion de l'eau, des déchets, de l'alimentation, de la biodiversité. Mais après, là, je te déballe tout ça comme ça, mais c'est un long chemin, en fait. Ça a commencé en 2016. J'ai fait un marathon, le marathon de La Rochelle. Parce qu'un marathon, c'est dur. J'aime bien courir des marathons. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire le double marathon de La Rochelle. Je vais courir le marathon une fois. Et hop, une fois que je suis arrivé, je recours une deuxième fois dans l'autre sens. Et j'ai utilisé ça pour lever des fonds, pour financer une école à Madagascar. Dans le Makai. Le Makai, c'est un hotspot de la biodiversité. On y découvre encore des espèces. Donc ça, voilà, ça a été ma première action concrète. Lever des fonds pour financer des profs et éduquer les jeunes dans cette zone de hotspot de biodiversité. Après, j'ai fait le tour de Bretagne à pied, parce que je voulais déjà connaître, visiter mon pays, la Bretagne. Donc j'ai fait le GR34 pendant 2 mois. Je suis allé dans 35 écoles. J'ai rencontré plus de 2000 jeunes. Et écoles primaires, collèges, lycées, des écoles de commerce, des universités. Et sur mon chemin, je leur demandais d'imaginer des propositions de loi écologiques. Et donc, j'avais plein d'idées. Et on a décidé, à l'Assemblée nationale, en discutant avec les députés, parce que j'avais créé un groupe de réflexion parlementaire, qui était composé d'une douzaine de députés bretons, de droite et de gauche. Et on avait décidé de focaliser sur les bouteilles en plastique, les bouteilles d'eau plate en plastique, parce que ça fait partie des top 10 des déchets qu'on peut ramasser sur les plages en France. Et donc, avancer vers les écoles zéro déchet, en mettant fin aux bouteilles d'eau plate en plastique dans les cantines scolaires. Et à partir de là, a commencé une aventure législative de lobbying éco-citoyen. Donc l'année d'après, j'ai refait le tour de Bretagne, mais cette fois en paddle. Parce que paddle, stand-up paddle. Et j'étais dans le train pour Paris, j'étais en dèche de thunes. Je vivais chez ma mère parce que j'avais rendu mon appartement. Ma copine m'avait quitté et je me suis dit, il faut rester debout, stand-up. Stand-up for your right, stand-up. Donc je me suis dit, tiens, je vais rester debout pour mes idées et je vais faire le tour de Bretagne, le premier tour de Bretagne en stand-up paddle complet. Donc Saint-Malo. Donc j'ai traversé aussi les terres en remontant la Vilaine, en descendant la Rance. Donc quand je dis que je fais un tour, c'est un vrai tour géographique. D'accord. Un peu à la Mike Horn avec son latitude zéro. C'est vraiment... Alors je mets un point d'honneur à bien respecter la zone géographique. Ouais. Et donc pendant ce tour-là, on a continué à séduire les députés. Mais c'était les nouveaux députés. Parce qu'il y a eu la vague Macron qui est arrivée. Donc il a fallu recréer un nouveau groupe de réflexion parlementaire. Il a fallu coacher les jeunes pour qu'ils prennent la parole. Parce que ces jeunes, en fait, je les ai invités à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui est rigolote, c'est que en fait, pour avoir les députés de droite avec moi, je leur ai dit oui, la gauche récupère, c'est un sujet qui concerne tous les partis politiques, et à partir de là, tous les gens qui étaient un peu de droite, ils ont dit mais bien entendu, nous serons présents à cette réunion, c'est important que l'écologie concerne aussi les Républicains à l'époque en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai réussi à réunir plusieurs groupes politiques différents
pour cette loi.
Pour cette loi. Et c'était pas une loi, c'était un amendement. Et donc après ce tour de Bretagne, attends, mais j'ai fait autre chose aussi entre temps. Après mon tour de Bretagne à pied, j'ai fait Jersey, Saint-Malo, à la nage. J'ai traversé la Manche à la nage. Et cette fois, c'était pas pour le Madagascar et le Mackay, c'était pour Sea Shepherd, créé par Paul Watson. Et on finançait l'opération Mare Nostrum avec l'achat de blocs de plongée pour récupérer les filets fantômes. Les filets fantômes sont des filets de pêche perdus qui continuent à tuer les poissons, les animaux marins. Et donc, pendant cette aventure à la nage, on a utilisé les médias pour le collecter des fonds. C'était quand même un gros défi. Je suis le premier à l'avoir fait. Jersey-Saint-Malo, ça correspond quand même au double de la traversée de la Manche à la nage.
Ah ouais.
Ouais. Donc c'est 70 km de nage. J'avais un bateau qui m'accompagnait, c'était 21 heures de nage.
C'est une heure en ferry.
C'est une heure en ferry et 21 heures à la nage, en utilisant les courants.
Ah ouais.
Ouais. Donc voilà, ouais, plein de trucs comme ça, mais je pourrais t'en raconter plein. Je suis parti tout seul dans l'Himalaya, j'ai fait le Stock Kangri, un trekking summit à 6153 mètres d'altitude. J'ai traversé une partie de l'Himalaya aussi en VTT. Quand j'étais plus jeune, je partais plonger dans les épaves à Malte, en apnée.
Donc, donc quand tu étais plus jeune, ça veut dire avant cette réalisation que, ok, il faut commencer à faire quelque chose pour l'environnement.
Avant, ouais, avant que je me considère, que je m'auto-proclame comme éco-aventurier. Donc, ouais, ça a toujours été dans mon
ADN. T'as toujours aimé faire des trucs extrêmes, comme on dit.
Ouais, extrême, en tout cas. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer son propre potentiel. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gâchis, il y a beaucoup trop de gens qui sont là. Ah, j'ai peur, j'ose pas. Putain, mais...
mais toi, alors c'est important de le dire, enfin, tu l'as dit avant, t'as peur, mais tu le fais quand même.
Bah, bien sûr, mais...
Comme traverser Jersey.
Bah, bien sûr, j'avais peur des taches noires, marron, qui bougeaient au fond... Je vomissais, j'avais mal de mer. En fait, faut pas laisser ces peurs être un frein et nous arrêter dans ce qui nous permet d'être réellement soi-même. Moi, je peux mourir demain, c'est pas grave. J'ai vécu ma vie chaque jour exactement comme je le voulais. J'ai aucun regret. Aucun regret. Et c'est ça que je veux sur mon lit de mort ou sur... ma dernière aventure, si un jour il m'arrive un problème, mais partir en me disant waouh, mec, t'as tout donné. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans et j'ai l'impression d'avoir 50-60 balais. Quoi.
Ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui écoute et qui est inspiré par ce que tu fais, mais voilà, comme t'as dit,
faut arrêter de tergiverser, il faut passer à l'action.
les conditions seront jamais parfaites, de toute façon. Donc, on passe à l'action, tout de suite, on met en place un plan d'action. Et action, 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 c'est tout. Et on réfléchit, on prépare les choses de manière intelligente. Et il faut voir sa vie comme une gestion de projet. Qui, quoi, où, comment, combien, pourquoi. Voilà. Et on y va. Et je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas se dire que c'est l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent.
Ouais.
Ça, c'est important. C'est
il faut que tu décides du projet et après l'argent va venir.
Ouais.
C'est ça ?
Voilà. Et après, tu vas mettre en place ce qu'il faut pour que ça vienne.
Ça, c'est vrai que je l'ai remarqué souvent quand j'ai. À chaque fois que j'avais une envie de voyage, ouais. comme celui-là, là, et ben, l'argent est venu. À chaque fois. Et par contre, il y a d'autres trucs. D'autres projets ou d'études ou peu importe, l'argent n'est pas venu. Il n'y a que les voyages pour moi, ça marche.
Et j'ai vachement changé mon regard sur l'argent. L'argent, surtout pour la culture française, c'est un peu mal vu. On n'ose pas parler de l'argent. Et tu gagnes combien? Combien ça coûte? T'as vu sa voiture, ça coûte cher, et sa maison. En fait, là, c'est de l'énergie. Et pour réaliser des grandes choses, on a besoin d'énergie. Et quand on dit haut et fort et qu'on programme « je veux faire ça, regardez, c'est un beau projet », et ben c'est là où on peut trouver des partenaires. Et j'ai un copain, là, Benjamin Ferré, c'est un navigateur qui navigue maintenant en Imoca, qui prépare le Vendée Globe, qui a fait la route du Rhum, qui a fait un podium sur la Mini Transat, sur des petits bateaux qui font 6,50 m pour traverser l'océan Atlantique. Et au début, bah, il a commencé petit, et puis il a vu grand.
Ouais. Ça, c'est
et puis il a trouvé les partenaires.
Ouais.
Commencer petit et puis mais pas se limiter et oser voir grand, mais être intelligent quand même sur l'instant quoi. C'est pas brûler les étapes, mais ne pas se limiter et oser voir grand. Aujourd'hui, moi, je suis apnéiste, je suis instructeur d'apnée. Je le dis haut et fort, je veux participer au championnat du monde. Et un jour, j'irai au championnat du monde. Je dis, je veux et j'irai. Comme avant, je disais. Je veux créer ma loi et j'imaginais, je visualisais l'Assemblée nationale qui vote mon amendement. Et ça a été le cas en 2018 pendant la loi Egalim. L'amendement contre les bouteilles d'eau plate en plastique dans les cantines scolaires lorsque l'eau du robinet est propre à la consommation selon l'ARS, l'Agence régionale de santé, blablabla. Et ben on a gagné. On a gagné à l'Assemblée, on a perdu au Sénat, on a regagné à l'Assemblée, on a gagné au Conseil constitutionnel parce que c'est passé devant le Conseil constitutionnel. Et ça, c'est fait. Tac. Je voulais écrire un livre. J'ai écrit un livre.
Ah, oui.
Maintenant, je veux aller au championnat du monde et je mets en place tout ce qu'il faut pour. Et c'est tout.
Donc,
comme un bulldozer.
Mais donc, raconte-nous un peu comment tu fais pour... Donc, tu as dit que tu visualisais. Donc, ça veut dire que tu crois... Tu crois en quoi quand tu...
Ben, je crois que j'ai la foi, c'est tout. J'ai la foi en moi. Moi, j'ai confiance en moi. Et ça, c'était un truc très masculin. Hein. Mais des fois, on a trop confiance. C'est pas grave. Mais moi, avoir trop confiance, ça marche.
Donc, t'as confiance en toi.
J'ai confiance en moi. Mais il y a un moment où ma confiance en moi, elle a été quand même assez touchée. C'est en 2019. Je voulais faire un tour de France en catamaran de sport. Et là, j'ai perdu mon bateau. J'ai chapeauté. Le bateau s'est retourné. J'ai brisé le mât. J'ai été sauvé par la CNSM. Et c'est vrai que là, ma confiance en moi a été touchée. J'ai perdu des partenaires. J'ai perdu plusieurs milliers d'euros. Et c'est vrai que ma confiance en moi était un peu touchée. Et j'ai repris en confiance en moi en retournant dans l'eau. Mais pas sur l'eau, sur un bateau. En me posant vraiment la question, Julien, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Est-ce que c'est faire du bateau? Parce que tes copains font du bateau? Parce que tes copains font la route du Rhum? Parce que c'est dans la culture de Saint-Malo, c'est dans la culture de la Bretagne? Non. Toi, t'aimes dans l'eau, t'aimes être un surfeur. Donc j'ai décidé de quitter la Bretagne. Je me suis installé à Biarritz, je me suis mis au surf de grosses vagues, je surfais déjà depuis mes 16 ans. Et en faisant des surfs de grosses vagues, comme à Parlementia, j'ai réussi à prendre des vagues de 3 mètres, j'ai pris des monstres de 5 mètres sur la tête, et je me faisais brasser. Et je me suis rendu compte que j'étais quand même à l'aise dans ces machines à laver. Et je me suis dit, tiens, si je suis plus éco-aventurier, que j'ai plus envie d'avoir ce stress de trouver des partenaires, j'ai plus envie d'être dans cette éco-anxiété, de lire des rapports sur la destruction de la biodiversité, sur le dérèglement climatique, j'en ai marre d'être attaqué en tant qu'activiste, j'en ai marre d'être catalogué comme végétarien, vegan, extrémiste, gauchiste, et de me faire attaquer par tous les gens de droite et majoritairement les chasseurs, par exemple. J'étais fatigué.
Ouais.
Et j'ai dit, bah, allez tous vous faire foutre. Je vais penser qu'à moi. Je veux être dans l'eau. Je veux du calme. Je veux changer de vie. Donc pourquoi pas devenir instructeur de surf? Mais j'avais pas le niveau. Et je me suis dit, tiens, pendant un voyage en Espagne, j'ai pris ma monopalme, parce que je faisais de la monopalme déjà quand j'étais au collège. J'avais déjà fait les championnats de France en monopalme, en piscine, en horizontale. Je faisais le 50 mètres sprint apnée. J'avais fini dernier du championnat de France à l'époque. Et j'ai fait une descente à la verticale, en profondeur. J'ai fait, mais c'est ça que je veux, quoi. Comme dans Le Grand Bleu, parce que mon film préféré, c'est Le Grand Bleu, que j'ai regardé 47 fois. Et c'est pas une blague.
Et que tu vas re-regarder.
Et voilà, j'ai le DVD d'ailleurs en face de moi, parce qu'on on est chez moi, là, où on enregistre. Et tout ça pour dire que je me suis dit, bah non, je vais devenir instructeur de dauphins et de sirènes et de tritons. Et j'ai fait l'instructeur PADI à Hendaye, à Planète Océan, et en 18 jours, j'ai réussi à avoir le niveau pour être instructeur. Mais pour moi, c'était pas assez, parce que je plongeais qu'à 32 mètres, c'était le niveau 32-34 mètres, c'était le niveau pour être instructeur PADI, parce qu'il y a PADI plongée, mais PADI freediver aussi, ça existe. Et je me suis dit, tiens, je vais devenir instructeur AIDA, Association Internationale pour le Développement de l'Apnée, parce qu'ils exigent qu'on plonge au minimum à 40 mètres. Mmh. Donc, je suis parti en Méditerranée, à La Ciotat et à Abyss Garden, avec le coach Gary. J'ai appris à plonger sur 40 mètres. Et là, je suis devenu instructeur AIDA. Et puis après, je suis parti à Lanzarote. Je me suis entraîné, j'ai fait mes premiers 50 mètres. J'ai fait mes premiers accidents en apnée aussi. J'ai fait un blackout en piscine parce que j'avais hyperventilé. J'ai fait un squeeze pulmonaire. Je me suis cassé des alvéoles parce que j'ai fait une compensation forcée en profondeur.
Trucs à pas faire.
Ouais, voilà, tout ce qu'il faut pas faire, je les ai fait. Et puis après, je me suis installé en Égypte où j'ai vécu 3 mois. Je travaillais au Blue Wall. Je faisais de la safety, je faisais de la formation. Et puis maintenant, je suis à Bora Bora. Et maintenant, je plonge à 60 mètres. Et j'essaie de m'entourer maintenant de coach. Depuis que je suis coach, j'ai compris qu'il faut être coaché. Donc je prends des coachs.
Tu le faisais pas avant ?
Non. Je m'auto-coachais. Mais ça a ses propres limites. Mm. Donc moi je suis très autodiscipliné. Mais c'est bien d'avoir un regard extérieur sur ce que tu fais. Donc aujourd'hui je prends conseil auprès de Christian Vogler, qui est l'entraîneur de l'équipe de France. Donc voilà. Je veux être au championnat du monde. Un jour, je veux être dans l'équipe de France. Aïda, je vais voir l'entraîneur de l'équipe de France. Voilà.
Et ton but, c'est de faire ?
Alors, le minimum pour rejoindre l'équipe de France Aïda, c'est 75 mètres en monopalme, 70 mètres en bipalme, 50 mètres sans palme. Et aujourd'hui, je plonge à 40 mètres sans palme et à 60 mètres en monopalme. Donc, il y a encore 15 mètres à gagner en monopalme, 10 mètres à gagner à la brasse. Donc là, tu vois, je suis un peu fatigué parce que je sors de la salle où j'ai fait toute une séance de musculation d'endurance sur les jambes, quadriceps, les mollets et tout, pour avoir des jambes puissantes en monopale. Mais surtout, l'intérêt de l'endurance musculaire, c'est d'avoir un muscle plus efficient qui consomme du coup moins d'oxygène. Et de surtout pas être dans de l'hypertrophie et de prendre de la masse musculaire. Mmh. Donc nous, les apnéistes, on est sur endurance musculaire et puissance. Voilà. Faut pas être volumineux, faut être endurant et puissant.
Ouais. Ils sont en général assez fins, les apnéistes. Mmh.
C'est vrai. Donc voilà pourquoi je suis à Bora, pour travailler, parce que j'adore enseigner. Par exemple, t'as fait la formation AIDA 2 avec moi, là, et c'est des moments géniaux, quoi. Les gens, ils sont heureux.
Et toi, ça se voit que ça te donne du plaisir de... Ouais. Quand les gens arrivent à faire quelque chose pour la première fois.
Ouais, je me nourris vachement du succès des autres. J'ai jamais été un rageux. Il y a beaucoup de gens, c'est des rageux. Moi, quand les gens, ils réussissent, moi, je réussis, quoi. Même les gens qu'on pourrait considérer comme des ennemis ou des opposants. Je trouve que c'est les faibles qui ragent contre ceux qui réussissent. Il faut plutôt...
Être content.
Ouais, faut être heureux, tu vois. Heureux pour les autres, ça nourrit son propre bonheur. Et je pense que peut-être ça nourrit son karma aussi.
C'est clair.
Ouais.
Donc souvent c'est aussi quand t'es jaloux ou quand t'es voilà quand ouais quand t'es jaloux du succès de quelqu'un, ça montre que t'aimerais faire ça aussi en fait, que t'as envie d'être de faire pareil. Mm. Ça peut te montrer ça.
De aussi. Faire pareil, mais que bah, ils ont peur, ils osent pas ou ils sont pas jeux et voilà. Hein.
Mais donc là tu nous as dit tout ton parcours. Comme si, enfin, c'était logique, c'était, enfin, peut-être, hein, c'était que des suites logiques à chaque fois que tu te réorientais.
Bah, c'est selon mon cœur, en fait.
Ouais.
Voilà.
J'écoute mon cœur.
Et je t'ai demandé hier, je crois, ouais, combien de temps ça t'a pris pour te décider, je sais plus ce que tu m'avais dit que t'avais fait.
Combien de temps pour me décider à changer de.
Oui, de faire la formation d'apnéiste.
Ouais, bah.
Au sein d'instructeur. Et t'as dit. Bah, une heure. Jamais, non, c'est pas possible.
Non, je pense qu'il faut prendre des décisions, même si on n'est pas sûr. Et on fonce. On donne tout.
Toi, tu penses, voilà, même si t'es pas sûr, t'y vas et puis tu vois.
Bah, oui, parce que de toute façon, tu peux être sûr que en faisant les choses. Tu peux pas être sûr en imaginant qu'en faisant ça, peut-être que ça va marcher, c'est que vrai. Peut-être t'auras une passion. Non. Go for it, quoi. C'est, t'aimes pas, bah, peut-être qu'au bout de 2-3 mois de pratique, bah, tu dis, bah, non, en fait, c'était pas pour moi. Voilà. Puis next. Mais moi, je suis de l'action. J'ai toujours été dans l'action. Souvent, j'ai un projet, j'ai une idée, je prends mon téléphone, et le premier truc que je fais, c'est je téléphone. Par exemple, j'étais dans mon van en Espagne, j'ai téléphoné directement au club de... de plonger, j'ai fait donc c'est vous qui faites les formations, d'accord, ça coûte combien, tatata, comment ça se passe, blablabla. Je fais ok, je suis là dans une semaine et go, voilà.
Et comment t'as donc là t'es instructeur d'apnée et quand peut-être t'es encore éco-aventurier, comment ça t'est venu d'avoir envie de faire ça ou de, enfin. J'ai bien compris, Nicolas Hulot, son slogan. Mais pareil, quand t'as entendu ça, et jusqu'au moment où tu t'es dit « Ok, je vais faire éco-aventurier », ça a pris combien de temps? Ou c'était quoi comme processus?
Le processus, ça a été quoi? Bah... Déjà, à cette époque, quand j'étais en école de commerce, j'étais dans l'exploration de mon potentiel. Ouais. Et je me suis vachement rendu compte que j'avais pas de limites. J'avais que des limites sociales. Il y avait que des limites sociales. J'étais en école de commerce. Déjà, pour moi, c'était énorme d'être en école de commerce. Parce qu'on était dans le top 14, c'est l'EM Normandie. Et moi, j'ai redoublé mon CP, j'ai redoublé ma seconde. L'école, c'était pas trop mon truc, quoi. J'arrivais à être en master, j'étais président du bureau des étudiants, j'étais président d'une association humanitaire, j'avais une super copine, et en fait, j'avais l'impression que rien ne me limitait. Donc, je m'étais mis à la course à pied, parce que la course à pied, ça coûte pas cher quand t'es étudiant, et je pouvais explorer mon potentiel. Donc, je courais déjà des 10 km quand j'étais au lycée. J'avais couru un semi-marathon au lycée. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à... Pourquoi pas faire un marathon? Je fais mon premier marathon, le marathon de Mont-Saint-Michel. Je crois que je le fais... Je mets longtemps, je crois que je mets... 4h30 ou 5h, je sais pas. Enfin bref, je suis pas rapide, quoi. Mais je le fais. Et là, je me dis, mais attends... j'ai couru un marathon, là. Je suis sûr que je peux aller plus loin. J'étais vachement impressionné par... le poids kilométrique, tu vois, 30 bornes, 40 bornes, 42, tu vois, genre, waouh. Et je me suis dit, tiens, vas-y, je veux aller voir ce qu'il y a derrière le marathon. Et donc, je me suis entraîné, j'ai fait d'autres marathons, je me suis blessé au genou, j'ai réappris à courir sur la pointe des pieds, et j'ai fait les 100 km de Millau, et je suis devenu un 100 bornard. Donc voilà, j'ai couru une fois dans ma vie 100 km non-stop. Ça, c'est une expérience de dingue. Et je suis convaincu que presque tout le monde peut le faire. Il y a une personne âgée, hein, je pense 70 ans, 70 ans, facile, qui m'a doublé sur un 100 km, il m'a doublé. Et il me fait, cours plaisir. Et ouais, du coup, j'essaie de courir plaisir. Depuis en course à pied, d'ailleurs, bah, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait aussi un des plus longs triathlons du monde autour de la France. Donc j'avais traversé la France en courant, j'ai fait Marseille-Monaco à la nage, j'ai fait le Tour de France en vélo. Ça, c'était en 2018. Donc tout ça pour dire que oui, à l'époque de l'école de commerce, je cherchais à explorer mon potentiel en course à pied. Et il s'est complètement exprimé aujourd'hui. Et le processus, il était déjà enclenché en fait. C'était faire ce que je veux et défendre mes convictions. Et après, c'est juste du modelage. C'est de la pâte à modeler. J'avais déjà la matière. Il suffisait juste de la modeler. J'avais pas de modèle économique encore. Mais
en fait, tu veux découvrir jusqu'où tu peux aller dans quasiment chaque discipline.
Bah ouais. Hein. Bah c'est fun quoi. C'est fun. Hein. Ouais.
Et rien peut t'arrêter.
Bah soi-même, c'est tout. Non, tu vois, il y a un autre domaine où je me suis pas encore exprimé, c'est dans. Moi, j'aime beaucoup rapper et slammer. Je rappe et je slame. Beaucoup en improvisation.
Please.
Il me faut un beat. Et un jour, j'aimerais bien sortir un EP, pourquoi pas, tu vois. J'ai déjà des chansons un peu de slam sur YouTube. Mais ouais,
Ouais. Oh, on va linker ça.
Et mais c'est plus pourri, quoi. C'est un peu nul, mais c'est pas grave. Déjà, j'ai le courage de le partager.
Ouais, c'est
je prends du plaisir à le faire. Et si ça plaît pas, fuck. Et ça aussi, j'en ai toujours rien à foutre de ce que pensent les autres. Mais rien à foutre. T'es pas content, t'aimes pas qui je suis, mais mon car, moi. Les gens s'en foutent au final. Tout le monde parle, mais tout le monde s'en fout. Alors, autant faire ce qu'on a envie de faire et le regard des autres, mais. Ce qui compte, c'est le regard des gens pour qui on a du respect. Je sais pas. Qui tu estimes? Et si cette personne qui estime, qu'est-ce qu'elle pense de ton idée ou de ton projet? Peut-être que là, ça a de la valeur. Tu vois? Mais si j'avais écouté ma mère, je serais comptable hein, dans une petite entreprise, voilà, ou je serais prof de sport dans un collège.
Ils choisissent la sécurité.
La sécurité, quoi. Si j'avais écouté certains de mes copains, j'aurais jamais osé. Genre, quand je disais, ouais, je vais courir 100 km en soirée, quoi, qu'est-ce qu'il raconte encore, Julien? Ouais, je vais faire voter une loi. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Et maintenant, ils arrêtent de me dire, ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Maintenant, quand je dis, je veux ça.
Ok.
Vas-y. Bon, bah, on va voir. Et je pense que l'affirmation, c'est hyper important. J'affirme, je dis, je vais faire ça. On formate le cerveau. Je vais plonger à 60 mètres. Je plonge à 60 mètres. Je visualise. Je prépare l'esprit.
Et tu le sais d'où? Ces choses-là.
De quoi?
De visualiser, de.
Je sais pas, c'est
toi qui fais ça?
Ouais, c'est comme un enfant. Je sais pas, quand t'es enfant, tu rêves. Et ben voilà, je continue de rêver. Donc.
T'as jamais vu des trucs de développement personnel où
après tout ça, c'est bien, mais. Je crois que j'ai pas arrêté d'être enfant, tu vois. Je sais pas, quand t'es enfant, tu rêves. Bah, adulte, c'est pareil. Je me rêvais au championnat de France d'apnée, avoir une médaille. Et ben j'ai eu une médaille d'argent au championnat de France. À côté du champion du monde. J'ai eu une médaille au championnat de France AIDA. J'ai remporté le Bora Abyss Contest. J'ai fait 3 compètes, 4 médailles, 4 podiums. Donc comme quoi, faut y croire. Faut y croire. C'est dingue, hein. Faut juste y aller. C'est tout.
Et tu visualises dans quel état?
Mais en fait, je crois que c'est ça. Je suis en auto-visualisation. Je suis tout le temps en train de visualiser. Je crois que c'est ça. Je suis dans l'instant présent, mais quand même, je suis tout le temps en mode mon objectif. Je suis passionné. Je suis pas obsédé. Mais je suis passionné. Et même quand j'ai des baisses de motivation, je maintiens ma discipline. Des fois, je me dis, Julien, tout à l'heure, j'étais à la salle. Je me suis dit, vas-y, arrête là, fais pas les fentes, over the head. J'étais là, ferme ta gueule, fais le taf. C'est tout.
Mais ça, c'est une qualité que t'as. Ouais. Parce que moi, j'ai pas ça, par exemple.
Mais ouais, c'est dommage. Les gens, ils sautent, ils se sabotent eux-mêmes.
Oui.
Ils se sabotent eux-mêmes. Oh non, ah, c'est chiant.
Ouais.
Putain, mais... T'as qu'une vie. Et la valeur de la vie, bah, ça vient de mon histoire personnelle. Ça, tu le sais, parce que t'as vu mon TED Talk. Ça vient de mon rapport à la vie, et très particulier, à cause du suicide de mon père. Donc moi, j'ai pris conscience très vite de la brièveté de la vie, de la valeur de la vie. Et tu vois, là, il y a 2 jours, on a encore perdu... on a perdu le papa d'un ami, Eric Mergalet, qui est parti beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune. Et je suis sûr qu'il disait, oh, j'ai encore 15-20 ans. Et je suis rassuré, parce que je sais qu'il est content de sa vie, tu vois. Il y a des gens, là, ils vont nous écouter, ils vont faire, oh putain, est-ce que moi je suis content de ma vie à l'instant T? Est-ce que j'ai réalisé vraiment des choses où je peux dire waouh? Après, il n'y a pas forcément de réaliser des choses waouh. Il n'y a pas besoin. Hein. Mais est-ce que tu es heureux de ta vie? Oui, eh ben c'est bien. Tu n'es pas heureux de ta vie? Bah, change. Tu as envie de faire un truc? Fais-le, mais en grand. Petit à petit, step by step. Mais vas-y, fonce.
Ouais. Tu te demandes, comme, enfin non, du coup, tu le vis, je pense, mais des fois, moi, je me demande, ok, est-ce que... Voilà, si je meurs demain, est-ce que... c'est ok.
Ouais.
Il y a plein de fois où c'est pas ok. Genre, on va attendre la retraite de baleine la semaine prochaine. Mais ouais, je pense que c'est une bonne question à poser et je pense que les gens ne se la posent pas parce que c'est quelque chose à laquelle on évite de penser. Mais c'est une bonne question en fait. Même à. Je sais pas si tu fais ça, d'écrire dans un journal.
Ouais, bah regarde, il y a mon carnet qui est là.
Et de te poser des questions comme ça.
Bien sûr, c'est important.
Si t'as pas envie d'en parler avec des gens, merci.
Ouais. Faut être honnête avec soi-même. Ouais. Normalement, faut arrêter de se mentir.
Mais je pense que aussi, si t'es. Tu vois, toi, t'as une vie très particulière, mais quand tu es dans une routine métro-boulot-dodo, comme la plupart des gens, qui vont peut-être écouter.
Ouais, mais après, tu peux avoir des projets de dingue. Tout en étant dans une routine, tu vois.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es dans cette routine, t'as même pas le temps, en fait, de te poser ce genre de questions, parce que...
Ouais, le temps...
C'est tellement stressant, en fait.
Ça me fait penser à ma mère, quoi. Ma mère qui a une vie très... Voilà, je travaille.
Bon, la génération de nos parents, de toute façon, ils sont vachement comme ça.
Oh là là, mais t'as fait quoi de ta vie, là? Ouais, je travaille, je fais une carrière. Ok, super. Ils n'ont pas vécu, quoi.
Ouais, ils attendent la retraite.
Mais ils ont, ouais, puis ils ont un cancer, ils tombent malades.
Ah, hein. Mais eux vont avoir une retraite, nous, pas. Donc on peut pas attendre.
J'y crois pas à la retraite. Non, non, faut se créer son propre patrimoine, je pense. Et,
ouais.
Et ouais, donc les gens qui n'ont pas le temps de se poser la question, au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Hein.
Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais alors? Si les gens n'ont pas le temps de... Même si c'est difficile pour toi d'imaginer, qu'est-ce que tu leur conseilles?
Moi, tous les... C'est un truc... Enfin, j'ai conscience de la brièveté de la vie. Je me dis... En fait, à l'instant... Là où je parle, je me dis... Je sais que je vais vivre très vieux. Mais je pars toujours du principe que je vais mourir dans 1 ou 2 ans. Un peu comme si j'étais un cancéreux en phase terminale. Un cancéreux en phase terminale, mais qui a quand même une vision d'avenir. Et du coup, je fais toujours les choix qui correspondent à mon cœur. Et comme ça va, je suis pas trop con et que j'ai fait des études, j'arrive derrière à organiser ma vie pour que ça soit viable financièrement, que ça soit viable dans la vie, quoi. Voilà. Je suis pas un riche héritier qui claque son argent. Je suis comme tout le monde. Tu vois, là, j'ai reçu tout à l'heure la taxe foncière de mon appartement.
Ouais. Mais donc voilà, donc, tu fais quand même des choix. T'as acheté, t'as investi, ouais. Donc tu fais des choix à long terme, bah en même temps de suivre son cœur, ton cœur.
Exactement.
Je pense que c'est pas évident pour tellement de gens de savoir faire les deux comme ça. Il me regarde, vous voyez pas, mais il me regarde comme ça. Ouais, bon, si, en fait, c'est évident. Hein.
En fait, plus on en parle et plus ça m'angoisse et limite ça me met un peu en colère les gens qui vivent comme s'ils étaient immortels. C'est un peu une insulte à leur propre existence. Tu vois?
Ils s'en rendent pas compte, hein.
Ouais, merde. T'es lobotomisé, quoi. Du coup, c'est triste.
Oui, t'es conditionné.
Ça, ah
c'est
ouais.
Sûr.
Ouais, ça me rend triste. Ah, je me dis merde. Ouais.
Ouais. Et parce que toi, t'as eu cette expérience très jeune, donc tu sais. T'as cette.
Ouais, et puis ça vient.
Tu sais.
Ça vient pas de mon éducation non plus, hein. Parce que moi, j'ai pas de famille, hein. J'ai une maman. J'ai une tata. J'ai un demi-frère, mais. J'ai pas particulièrement de modèle. Ouais. J'ai plus, enfin c'est horrible de dire en podcast, je m'en fous. J'ai plus des anti-modèles.
Non, mais c'est normal.
Tu vois ?
Enfin, c'est normal.
Un père qui se suicide, une maman qui a fait une carrière dans un métier très dur en psychiatrie. Je l'ai vu souffrir des dégradations de travail, je l'ai vu souffrir du fait qu'elle ne puisse pas soigner correctement les gens. J'ai vu une tata qui a eu une carrière sympathique, très classique dans une grande entreprise française, mais c'est pas des modèles, quoi. C'est pas des gens, enfin je suis pas en mode waouh, je vais faire pareil.
Et justement, toi tu peux choisir du coup ce que tu as envie.
Bah,
de
je peux choisir, je sais pas si je peux choisir, mais je choisis. Enfin, en tout cas
tu choisis.
Ouais. Moi j'ai des copains et je pourrais pas avoir leur vie, quoi. Enfin, ça m'angoisse trop, quoi, d'être
la maison, les enfants.
Ouais, voilà, mais après, je dis pas que je veux pas une maison et des enfants. Tu vois, mais un 5-7, 5 jours sur 7, pour travailler pour une banque, par exemple. Mm. Pff, angoisse.
T'as jamais travaillé dans une entreprise ?
Bah, j'ai travaillé pour une agence événementielle à Paris, j'ai travaillé pour Decathlon 2 semaines, j'ai travaillé.
Ok.
Non, par exemple, les jobs d'été.
Ouais.
Moi, je disais, mais attends, je vais pas faire un job d'été.
C'est clair.
Je vais être plus malin que ça. Par exemple, j'organisais des teufs quand j'étais à l'IUT. J'étais auto-entrepreneur, je privatisais des boîtes, mm-hmm. Je faisais venir les étudiants, ils picolaient, ils payaient le vestiaire, je touchais un pourcentage, et en une semaine, 2 semaines d'organisation, en une soirée, je gagnais autant qu'un été. Tu vois ?
C'est pas mal.
Donc, faut casser le modèle, quoi. C'est, tu vois, j'étais en boîte de nuit, je voyais un DJ, je disais waouh, ouais, c'est trop stylé ça. Bah je veux faire ça. Hop, je vais voir le DJ, tu fais ça. Oh bah tiens, t'es sympa toi. Ouais bah vas-y, je fais comme ça, comme ça, comme ça et go, quoi. Du coup je suis devenu copain avec des DJ, avec des promoteurs de soirée et j'ai organisé mes premières teufs comme ça.
Et t'as toujours été entrepreneur.
Ouais, voilà, j'ai de la fibre d'entrepreneur.
Ouais. Ouais. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est un peu inné. Tu peux l'apprendre, mais c'est aussi inné, tu vois, si tu le faisais déjà jeune. Comme les enfants qui vendent des limonades.
Les braderies. Bah ouais, par exemple, dans les braderies, quand j'étais en école primaire, j'allais acheter sur les braderies les trucs que je pouvais revendre pendant la braderie. Donc le matin, j'allais acheter pas cher des choses à d'autres jeunes qui comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient. Et après, je revendais des fois 4, 5, 6 fois plus cher ce que j'avais acheté le matin.
Ouais, cool.
Où je faisais le tour de Cancale, donc je suis originaire de Cancale à côté de Saint-Malo. Et je faisais, je suis un petit jeune, je vais faire la braderie pour me faire un peu d'argent. Est-ce que vous pouvez me donner des affaires que vous n'utilisez pas ? Et je récupérais comme ça plein de trucs et je les revendais. C'est marrant, c'est vrai que quand tu dis ça, c'est naturel.
Donc c'est pas, enfin, je dis pour les gens qui écoutent et qui se diraient peut-être, enfin comme moi, je me dis, ouais, ça a l'air super facile, mais pour moi dans ma vie d'entrepreneur, c'est pas si facile que ça. Donc t'as déjà la fibre en fait.
Mmh. Ouais, bon, ouais, ça c'est vrai.
Et après t'as aussi la discipline, ce qui est bien aussi quand t'es entrepreneur.
Mmh.
Et puisque tu vois, quand t'es employé, quelqu'un te dit, viens à tels horaires, fais ci, fais ça.
Non, moi, je pète un câble. Ouais. En fait, c'est
toi, tu l'as déjà.
Ouais.
Il y a un avantage quand tu commences, surtout. Mais toi, ça fait longtemps que t'as commencé.
Ouais. ouais, c'est vrai que c'est un peu,
Donc.
Et après, il y a la natation. J'ai été en club de natation et c'est vrai que là, la discipline, je l'ai apprise là, en ligne, dans les lignes d'eau, quoi. On nageait 5 fois par soir.
On n'avait pas trop de vie. Quoi. Quand tu es un nageur, tu sais ce que c'est que la discipline. Tout ça pour gagner des centièmes et souvent finir. J'ai pas fait beaucoup de podiums en natation. Le seul podium que j'ai fait en natation, c'est en équipe. Mais j'ai appris à nager et la discipline. D'ailleurs, j'avais un coach, Claude Chapuis. Claude Chapuis, n'importe quoi. Claude Lepage. Claude Chapuis, c'est en apnée. Claude Lepage, qui était en siège roulant. Il était en fauteuil roulant. Il était coach de natation. Et il était dur. Hein. D'ailleurs, il était tellement dur que mon dernier entraînement en natation, je suis parti en larmes. Il m'a dit, ouais, c'est pas parce que t'es allé au championnat de France que, ouais, que c'est bien, que machin. Il m'a démonté. Enfin, il était trop dur. Mm. Du coup, je me suis effondré. Surtout à l'âge où t'es adolescent. Mm. J'ai plus jamais remis un pied au club de natation. Là, je me suis mis au surf et à la planche à voile. Et j'étais en classe voile au lycée, l'Institut de la Providence à Saint-Malo. Et d'ailleurs, ça me fait penser à mon pote Alexandre Cousin, qui rêvait, qui mangeait, qui vivait planche à voile, et qui en 2016 a été champion du monde en PWR. Donc comme quoi, il faut vraiment croire en ses rêves.
Ça, c'est clair. Ouais. Et visualiser, et...
Et s'entraîner, rien lâcher, et blablabla, et blablabla. Ouais. Et on parle, et on parle, et ça part dans tous les sens.
Non, je pense que c'est cool. Ouais. J'espère que c'est cool pour ceux qui écoutent. Sinon, juste des questions peut-être un peu moins sérieuses. Qu'est-ce qui... Parce que t'as pas mal voyagé, je pense.
Ouais, j'ai eu la chance de faire une quarantaine de pays.
Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment plu? Les endroits où t'es allé et pourquoi?
J'ai adoré l'Himalaya. L'Himalaya, ouais, territoire incroyable. La Polynésie, là où on est. La voie de l'eau. Avatar 2. Je vais voir les baleines pour ça.
Pourquoi la Polynésie?
Bah, parce que je vis dans l'eau, quoi. L'eau est chaude, translucide. Il y a des requins. Il y a des tortues. Il y a des baleines. C'est cool. C'est une vie d'Aquaman. Après, j'ai adoré aussi l'Égypte, avec la mer Rouge. J'aime beaucoup la Méditerranée. Ouais, c'est. Bon, c'est plus proche quand même de la mer ou des montagnes. Milieu naturel. Après, dans les grandes villes. J'ai bien aimé voir la folie de New York.
Ah ouais, ouais. Tu peux quand même être dans une grande ville.
Ouais, c'est sympa voir la folie de New York.
Combien de temps tu tiens dans une grande ville?
Oh, je sais pas trop. Est-ce que j'ai vécu une fois loin de la mer ou quoi? Ouais. Dans les grandes villes. Ouais, j'ai vécu à Paris. J'ai fait presque un an à Paris et ouais. Bah, c'était sympa un an quoi. Ouais. Parce que t'es dans le rythme parisien, tu vois plein de potes et tout, mais après c'est.
C'est stressant.
Ouais. La ligne 14. Pernetti. Montparnasse. Non, c'est une vie de fou, Paris. C'est pas pour moi.
Y a pas la mer.
Y a pas la mer. T'es déconnecté de la réalité pour moi. Puis tu tombes dans les vices de la ville, quoi. C'est vraiment ça, quoi.
C'est quoi?
Ouais, beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, beaucoup de tabac, beaucoup de. Quand même de la drogue. Bon, après, c'est caricatural ce que je dis peut-être, mais. Quand je vois des copains qui sont en ville, ouais, ça.
Ouais.
Bah, c'est la terrasse parisienne, la pinte et la clope. Et...
Ouais, ouais, ouais.
Et moi, ça me saoule, quoi. C'est pas du tout. Enfin, être avec mes amis extra. Mais. Payer 12 euros ma pinte. Je préfère la payer 12 euros face au rempart de Saint-Malo, quoi.
C'est clair. C'est clair. Ouais. Et Saint-Malo te manque des fois?
Non, Saint-Malo ne manque pas, plus les amis qui manquent. Mais Saint-Malo ne manque pas parce que j'ai vécu ma Bretagne, qui m'accompagne tous les jours. Et que, après avoir beaucoup voyagé en Bretagne, voyagé en France, en Europe, maintenant je me vois comme un voyageur en quête d'un niveau mondial d'apnée. J'ai fait Égypte, là je suis à Bora Bora. La prochaine étape, c'est les Philippines. Bon, je sais pas encore si je vais partir bientôt aux Philippines parce que bon, j'ai rencontré quelqu'un ici. Mais, Inch'Allah, on verra.
Et ta vision pour dans quelques années? Tu penses pas comme ça?
Ma vision dans quelques années? Bah, j'espère être un athlète, vraiment d'apnée, être un très bon coach. Tous les jours, j'étudie, je me pose des questions sur la préparation physique, la préparation mentale, pour être un bon coach. Moi, j'ai envie quand un élève, il est avec moi, il fait waouh, putain, lui, on s'était bien. De bien observer les gens, de bien comprendre c'est quoi leur problème, est-ce que c'est que technique, est-ce que c'est psychologique, si c'est psychologique, comment je peux intervenir. J'ai envie d'être fin, j'ai envie d'être précis, j'ai envie de faire du sur-mesure. Pourquoi? Parce que quand j'étais en Égypte, j'ai rencontré des gens très inspirants, des coachs extraordinaires. On parle des meilleurs coachs au monde d'apnée. On parle de Gus, de Touchdown, on parle de Tito Zappala, qui travaillait à la avec Andrea Zuccari, qui nous a quitté il y a 2 semaines, hélas. On parle de l'anglais Gary. On parle de ces gens-là qui ont un niveau extraordinaire. Par exemple, Tito, il plonge à 144 mètres, 142 mètres, en variable. Ce sont les personnages du Grand Bleu dans la vraie vie. Et ils sont, en plus, j'adore, parce qu'ils sont un peu comme moi, ils sont extravertis. Et souvent, les apnéistes français sont un peu... Enfin, je ne vais pas faire de caricature, mais très, très calme, très yoga et tout. Et on peut être très zen, très yoga, très calme, et être complètement extraverti à côté. Voilà, on n'est pas des bouffeurs de graines.
Des moines.
Des moines, quoi.
Ouais.
On peut être...
Et c'est aussi pas forcément... évident que quelqu'un qui soit bon en performance soit un bon coach, ça n'a rien à voir.
Ah, n'a rien à voir. Non, Zinedine Zidane, bon, c'est un grand joueur et un grand coach. Mais un grand joueur n'est pas forcément un grand coach, ça c'est clair. Tout comme un instructeur n'est pas obligé d'avoir un très grand niveau et peut-être excellent.
Ouais.
Mais moi je veux être les deux. Je veux être excellent, je veux inspirer mes élèves et je veux un niveau mondial. Donc, mais je suis français. Donc c'est très compliqué de rejoindre l'équipe de France parce qu'on fait partie des meilleurs au monde. Mais si j'étais marocain, si j'étais égyptien, si j'étais norvégien, si j'étais anglais, si j'étais irlandais, je serais déjà dans l'équipe nationale. Ou si j'étais
Tu peux avoir un deuxième passeport.
Ah ouais, un deuxième passeport. Bah si quelqu'un nous écoute, voilà, je cherche un passeport.
Mais voilà. Quel pays?
Tiens, c'est une bonne question ça. Quel pays tu choisirais toi?
Moi?
Ouais.
Bon, moi, c'est déjà fait, donc...
La Suisse? Ouais.
Attends, mais Suisse. Tu veux dire pour me marier ou quoi?
Bah, si tu pouvais avoir une double nationalité, ce serait laquelle?
Sans se marier?
Sans se marier, ouais, juste comme ça.
Non, je pense Canada.
Canada? Ouais. Ah ouais?
Ouais.
Il fait froid quand même.
Ouais, mais Vancouver, c'est magnifique.
Ah ouais?
Non, je sais pas si tu peux faire de l'apnée. Ouais, il fait froid. Ouais. Ouais. C'est très froid.
Déjà, ça serait un pays en dehors de l'Europe.
Bon,
parce qu'on a déjà l'espace Schengen. Bah, peut-être le passeport le plus prisé, hein, si on est un peu opportuniste, les États-Unis. Peut-être.
Ah non.
Mais c'est classique. Mais ça me fait pas rêver, les États-Unis.
Non, non, non.
Après, ça me fait un peu rêver. Pourquoi? Parce qu'il y a Hawaï.
Ah ouais.
Donc je me dis, tiens, la Polynésie, mais la Polynésie américaine.
Ouais,
c'est pour ça que je me dis ça.
Ouais, ok. Je comprends.
Après. Ouais, j'en sais rien.
Non, mais un pays qui pourrait gagner, enfin où tu pourrais rentrer facilement.
Oh, bon, la Croatie, il y en a beaucoup. Hein. Tous les pays du continent africain, déjà. Plein de pays du Moyen-Orient. Ouais.
Ok.
Ouais. Ouais, il y en aurait plein.
C'était quoi la question? Je sais plus.
On part.
Ah oui, ta
dans
vision,
tous les sens.
Hein,
ma vision de moi dans quelques années.
Ouais.
Bah, un meilleur athlète en tout cas.
Ouais.
Un bon coach. Et peut-être plus de stabilité. Donc, je dis ça à chaque fois, mais quand j'étais parti m'installer vivre au Pays Basque et au final j'ai acheté, ce sont des amis qui sont dans mon appartement. Et... Je suis à Bora Bora. Et là, pourquoi pas rester en Polynésie? Pourquoi pas... Là, ça serait les Philippines après, je sais pas.
Il y a trop de possibilités, c'est ça aussi.
Mais ouais, c'est ça qui est génial. Moi, j'ai envie d'avoir plusieurs vies.
Mm.
Et
C'est clair. Je suis déjà en train de regarder la prochaine école. Et je me dis, mais pourquoi j'ai trouvé ce nouvel hobby? J'ai pas envie d'avoir un nouvel hobby, tu vois. Qui va me faire nager dans des eaux chaudes. Hein. Ouais.
Et tu vois, tous ces voyages que j'ai faits, c'est pas une fuite, c'est une construction. Parce qu'il y a pas mal des gens qui partent en voyage, c'est plus une fuite.
Ouais.
De...
Comment tu penses différencier les deux?
Bah, quel est mon objectif à long terme et est-ce que ce voyage contribue à atteindre cet objectif? Je suis à Bora Bora, j'ai fait énormément de certifications, donc j'améliore, je suis passé de instructeur à master instructeur. Il ne manque plus que 12 ou 13 certifications pour passer instructeur trainer, donc là j'ai carrément amélioré mon profil de coach. J'ai pu m'entraîner ici en eau chaude et j'ai pu réaliser un rêve de plus.
C'est vrai que pour nous, Français, c'est quand même un rêve. Hein.
Bah ouais, c'est un peu le voyage d'une vie hein, quand tu vas en Polynésie, Bora Bora.
Ouais.
24 heures d'avion.
Ouais, tu le mérites, non? T'avais pas cette impression de mériter le voyage quand t'es arrivé après ces 24 heures?
De mériter, ça veut dire
que genre.
Un peu comme si c'était la fin d'une course.
La fin
d'une course, ouais. Ouais, je sais pas si.
Ou ça se mérite, tu vois?
Ouais, bah après, pour moi, c'est pas un effort énorme de prendre l'avion, mais. Si c'est dur, ouais. Tu vois, par exemple, ma mère, je lui ai dit de venir, mais elle me dit, mais c'est 2 fois 12 heures, c'est trop. Pareil. J'avais dit, mais arrête,
putain,
tu poses tes fesses dans un avion, c'est tout, tu te demandes pas de faire 100 km de vélo, tu vois. Donc pour moi, c'est pas un effort. C'est juste long.
C'est juste chiant, un peu ennuyant.
C'est chiant, c'est surtout cher. C'est surtout cher. C'est tout ça. Mon kiki, mais. Mais oui,
mais ça vaut le coup.
Ça vaut le coup.
On vous le conseille tous.
Ouais. Mais il faut prendre le temps pour venir ici.
Ouais.
C'est juste.
Il faut un mois au moins.
Ouais. Non, c'est clair.
3 semaines au pire.
Ouais.
Parce que t'as déjà quelques jours pour te remettre la différence de.
Ouais, le décalage horaire, il est dur.
Ah ouais, c'était dur.
Faut au moins. Moi, j'ai mis un mois à atterrir.
Ah, t'as mis un
mois? Un mois. Ouais. Si tu restais là, tu ferais. Dans un mois, tu ferais. Ah ouais, j'étais quand même à côté de la plaque. C'est sûr et certain.
Dans quel sens?
Ah, mais.
Tout.
La compréhension, des fois les gens te parlent, t'es un peu à côté de la plaque, le sommeil, se recadrer.
Ouais.
Réaliser que t'es là. Non, mais les premières fois, tu te réveilles, je suis à Bora Bora. Déjà, c'est tellement un nom de carte postale
que
des fois, je réalise pas, je vis à Bora Bora. Là. Ouais. Waouh, waouh, waouh.
C'est vrai que tu prends facilement, en anglais, on dit things for granted. T'as vite fait d'oublier à quel point c'est super, tu vois. L'humain est très rapidement se dit ah oui, c'est normal.
Ouais.
Tu vois.
Adaptation quoi.
Ouais. Très vite.
Ouais. Non, j'essaie de me dire tous les jours que demain ça peut être terminé quoi.
Ouais. C'est vrai. Ouais. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter?
Eh bah, vivez votre vie comme si vous deviez mourir dans un an. Et faites en sorte que votre rêve participe à améliorer le monde. Action, tout simplement. Faites les choses et arrêtez de tergiverser. Si vous savez pas comment faire, et bah, vous contactez les personnes qui vous inspirent.
Vous contactez
si vous savez
Julien
pas comment
Moreau.
Faire, et bah, vous trouvez un moyen. Et go quoi.
Ouais. Et est-ce que tu te considères encore éco-aventurier?
Non. Non, parce que mon engagement était total.
Politique.
Politique aussi. Et aujourd'hui, non. Non, plus trop. En tout cas, moins. Okay. Non, plus trop. Non, pour moi, c'était de l'activisme pur. Là, j'ai changé de métier.
Et c'était fatigant. Je voulais rebondir là-dessus.
Ouais,
vite
c'était
fait.
Épuisant physiquement. Enfin, je veux dire.
Parce que tu dois tout le temps être un peu en lutte avec.
Bah, t'es en lutte physique.
T'es
en lutte mentale.
Aussi, ouais.
T'es en lutte pour trouver des finances, t'es en lutte avec convaincre les gens de ta cause, t'es en lutte, t'es en décalage social, tu vois. Puis moi j'étais à fond là-dedans, tu vois, je vivais là-dedans, donc au bout d'un moment les potes ils en avaient marre, quoi. Tu vois, je faisais que ça, quoi. Mais j'ai aucun regret. Tu vois, aucun regret.
On apprend toujours tellement de trucs quand on fait peu importe quoi d'ailleurs. Et c'est bien de... Juste pour avoir appris des trucs, c'est bien de l'avoir fait, quoi. Mmh. Voilà.
Et vivre. Tu vois, j'ai vraiment la sensation de pouvoir dire... Moi, j'ai vécu, tu vois. Moi, j'ai vécu. Mmh. Tu vois, je parle, j'ai 10 000 flashs qui me viennent en tête, tu vois. J'ai nagé en monopalme avec des dauphins. J'ai planté le drapeau du Kwenadu en solo au sommet d'un 6000 dans l'Himalaya. J'ai eu des frissons en faisant un sprint en courant 100 km. J'ai chanté en paddle dans des rivières en ramant toute la nuit. J'ai eu des frissons tout seul sur mon catamaran, sur un patin, sur une coque. J'ai descendu des montagnes en VTT avec mon vélo, c'était le Ghost Rider, avec mon crâne de cheval.
J'ai une question qui me vient quand tu dis tout ça, c'est est-ce que après de vivre des trucs extrêmes comme ça, tout le temps, t'as pas du mal à pas vivre des trucs extrêmes au quotidien? Enfin là, tu fais de l'apnée, mais quand t'en faisais pas, ou tu vois, quand, je sais pas, maintenant tu vas à faire une semaine normale, tu vois, être avec ta famille ou tes amis, et juste...
Mais déjà, je fais pas de semaine normale avec ma famille. Mais une semaine normale avec mes amis, bah non, j'adore être avec mes amis, tu vois. Et chiller.
T'arrives à chiller.
Bah ouais, carrément.
T'as pas besoin de toujours faire quelque chose de...
Non, pas d'extrême. Forcément. Pas forcément. Mais... Moi, ce qui me fait peur, c'est l'angoisse du vide. Le vide. Le non-sens. Ça m'angoisse. Tu vois.
C'est-à-dire le non-sens.
Bah, vivre pour vivre, enfin.
Ouais.
Et ouais, vivre comme un mort, quoi. Vivre lobotomisé, quoi. Ça m'angoisse, tu vois.
Genre, pour toi, ça serait travailler dans une entreprise.
Bah, ça serait ne pas faire ce que j'ai réellement envie de faire, quoi.
Ouais.
C'est tout. C'est être frustré, quoi. Être frustré. Et accepter que ma vie sera une frustration constante. Ça, c'est mort. Je préfère prendre tous les risques possibles pour vivre, tu vois. J'ai fondu en larmes en voyant que mon... Enfin, tu vois, j'ai vécu des trucs, genre... Fondre en larmes quand tu vois que à l'Assemblée nationale, on te cite, tu vois, par exemple. On cite ton amendement. Que un ministre, le ministre Stéphane Travert à l'époque, donne un avis défavorable du gouvernement. Mais que les députés votent quand même ton amendement, tu vois. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Voir son livre être imprimé et sortir et être posé à côté de Mike Horn. Tu te dis, waouh, là je vis un truc.
Une question sur le livre. Comment ça a été le processus d'écriture?
Processus d'écriture. Déjà, comment ça s'est fait? J'ai terminé mon tour de France en 2018. J'ai Clément Ronin, un éditeur de Hugo Doc, qui est venu à ma rencontre. Il me fait, j'aimerais que tu écrives un livre. J'ai fait... Ok, j'ai fait...
Tu n'y avais jamais pensé?
Si, je voulais écrire un livre. J'ai toujours su que je voulais écrire un livre pour me venger de ma maîtresse de CM2, CM1, Claudette, qui était très méchante. J'ai toujours dit que j'écrirais un livre et je me moquerais d'elle dedans. Et c'est ces choses faites. et du coup, j'ai écrit avec mon ami et journaliste Stéphane Dugast. Et on a écrit à deux. Et je voulais surtout qu'il, lui, ça soit un peu... Parce que du coup, j'aborde des sujets environnementaux. Mmh. Et je voulais avoir tout le temps la thèse-antithèse. Et pas que ça soit qu'un livre d'activiste. Toujours contrebalancé. Et quand tu lis mon livre, je laisse toujours une place à quelqu'un qui n'est pas vraiment d'accord. Tout en assumant un point de vue ferme. Donc ouais, voilà, le processus s'est fait comme ça. C'était plus de 6 mois de travail. Des phases où pendant 2 semaines t'arrives pas à écrire et t'es en colère parce que tu rumines des choses et paf, ça sort d'un coup. Et puis après il y a le travail d'écriture laborieux, se lever, écrire des caractères, écrire des caractères, supprimer,
éditer à la fin.
Et ouais.
Et tu t'es fait aider d'un coach
en écriture? Non, au final ça venait tout seul. Je mettais du slam, enfin je mettais de la musique de rap ou je mettais du beat. Et hop, j'arrivais à écrire.
Et puis Stéphane m'a bien aidé sur la structure, tu vois, sur le chemin de fer. Et ouais, on a fait un travail d'équipe.
Cool. Ouais, Stéphane, ouais. Il est disponible dans les librairies de France ?
Ouais. Il est sorti en 2019, on en a vendu presque 5000 exemplaires. Ça c'est cool. Mmh. Et ouais, écrire un livre, ça aussi c'est un truc de ouf.
T'aimerais le refaire ?
Ouais. Ouais, en fait, j'écrirai sûrement un livre pour mes 40 ans. Donc dans 5 ans et demi à peu près. Là. Tous les 10 ans, j'aimerais être capable d'écrire un livre sur ma vie et me dire putain, regarde, ma vie elle est tellement cool qu'on peut en écrire un livre et les gens peuvent lire ça en kiffant, tu vois. Donc tu vois, mes 20-30 ans, mais waouh, j'ai adoré quoi. Adoré.
T'as écrit sur tes 20 à 30 ans. Bah,
je raconte mon enfance aussi, tu vois, mais mon enfance c'est pas du fun quoi. Mm. C'est pas très cool quoi. C'est ça qui m'a motivé aussi à avoir une vie fun. Et là, du coup, mes 30-40 ans, début de trentaine compliqué, mais.
Covid.
Ouais. Le Covid, la perte de sponsors, l'anxiété liée à l'environnement, la désillusion face à Nicolas Hulot, par exemple, la désillusion face à la capacité du système à se transformer en profondeur pour être à la hauteur du désastre écologique. Et maintenant, l'acceptation que bah, j'ai fait ce que je pouvais et je suis pas allé de main morte. Et que maintenant j'ai le droit de penser que à moi et à mon rêve de grand bleu.
Et l'apnée et tout ça.
Et en fait, j'ai quand même l'impression d'aider les gens, tu vois. Je suis pas dans un truc que égoïste. Je suis pas que athlète, m'entraîner que pour moi, tu vois. Genre, tu vois, on a passé 2 jours ensemble. J'ai quand même l'impression, par exemple, de t'avoir contribué.
Bien sûr.
Un petit peu à. Dans ta vie, que tu sois plus calme, plus sereine, que t'aies plus de confiance en toi.
Ouais.
Tu vois ?
C'est clair. Et aussi, je pense que tout simplement, en faisant ce que tu fais, tu inspires les gens. Et ça peut les aider, tu vois.
Ouais, c'est clair, l'inspiration, c'est hyper important.
Ouais. Qu'ils peuvent se dire, ah ben, moi aussi, je peux le faire.
Grave. Mais pas trop, parce qu'après, j'aurais plus de place dans l'équipe de France. Ouais, non, mais faut rêver.
Ouais,
sans les rêves, on est mort, comme dit Kylian Jornet, sans les rêves, on est mort.
Donc, où est-ce qu'on peut te trouver ?
Le livre ?
Le livre, tes têtes. Ah,
ben, mais... c'est Julien Moreau, éco-aventurier. Donc, j'ai fait 2 TED Talks, j'ai écrit un livre, j'ai une page Instagram et Facebook, Julien Moreau, éco-aventurier. Et je cherche des partenaires, si vous voulez m'aider à atteindre mon objectif de champion du monde. Je peux représenter votre entreprise dans des compétitions, au championnat de France, et ainsi de suite. Et voilà. Je peux venir dans votre entreprise, faire des stages, des talks, bien sûr, des inspirations, mais aussi des exercices de respiration pour réduire le stress de vos collaborateurs.
Ça, je conseille.
Ça marche bien, ça, ce que je fais, là, les petits exos, là, c'est pas mal.
Personnalisé.
Ouais. Donc voilà.
Ouais.
Et puis, cool. Action, quoi. Ouais. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le. C'est tout.
Merci, Julien.
Merci à toi. Allez, Kenavo.
Et merci à tous d'avoir écouté.
Ciao.